Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour à tous, je suis Mathilde Bouichou, psychologue clinicienne, psychothérapeute. Habituellement, dans ce podcast, je reçois un couple ou un témoin pour évoquer une difficulté liée à la parentalité avec un expert. Mais à situation exceptionnelle de confinement, épisode exceptionnel. Guillaume, un des membres de l'équipe de parentalité, va m'accompagner dans ce numéro un peu spécial, dans lequel, vous l'avez compris, nous parlerons de confinement. Avec Guillaume, nous avions envie de recontacter certains parents qui étaient venus dans l'émission pour leur demander comment ils vivaient aujourd'hui leur confinement avec leurs enfants.
Alors, tout à fait Mathilde, il faut dire que nous sommes au 16e jour de confinement, qu'il va encore durer apparemment au moins 15 jours, en tout cas ce qu'a dit le gouvernement. Alors pourquoi ne pas en profiter pour donner à ceux qui nous écoutent quelques clés pour comprendre ce qu'il se passe dans nos têtes et dans celles de nos enfants. Et pour nous accompagner dans cette émission spéciale, bien, on va retrouver Stéphane. Vous étiez venu nous parler de vos ados de 18 et 14 ans et avec lequel vous rencontriez des difficultés de communication. On verra, Stéphane, ce qu'il en est dans cette période particulière. Bonjour Stéphane.
Bonjour.
Bonjour Aïda, vous êtes la maman solo d'une petite fille de 2 ans et demi.
De 2 ans pile.
De 2 ans pile.
Bon, mais c'est parfait. Ouais.
Et bonsoir et Louise également, vous nous aviez parlé de la difficulté de la tranche horaire de 18h-20h. Depuis, vous avez accouché d'une petite fille qui a maintenant 4 mois et votre fils a 3 ans. On verra comment gérer ces âges un peu difficiles à l'heure du confinement. Bonsoir et Louise.
Bonsoir.
Et enfin Christelle. Bonsoir Christelle, vous nous aviez parlé des bouleversements psychiques de la grossesse et vos enfants ont aujourd'hui 8 et 4 ans.
Bonsoir.
Alors, on va parler de confinement, mais quel type de confinement vous vivez? Est-ce que vous êtes à la maison? Est-ce que vous avez un appartement? Est-ce que vous avez de la place? Est-ce que vous êtes dans un petit studio? Alors, comment vous résumeriez votre situation en deux mots? On va commencer par vous, Aïda. Vous êtes dans quel type de confinement ce soir?
Alors, moi, tout est relatif, mais effectivement, je suis dans un 40 mètres carrés dans le centre de Paris.
Et comment vous résumeriez votre situation alors, très rapidement? Est-ce que c'est facile à vivre, pas facile à vivre?
Alors écoutez, tout est relatif, mais effectivement, j'ai de la chance d'avoir une grande résilience et de mettre en pratique le carpe diem, parce que si je vois le bout du tunnel, je flippe, donc j'essaye de vivre vraiment au jour le jour. J'avoue qu'à 80% ça marche, et il y a 20% où c'est par moment, voilà, c'est un peu compliqué.
Christelle, vous êtes dans quel type de confinement? Vous restez dans une maison, un appartement?
Alors moi, je suis en appartement, je suis restée à Paris. J'ai la chance d'avoir un appartement qui est quand même assez grand. Et puis, on a la chance d'avoir des voisins qui sont, eux, partis. Ils nous ont laissé, en fait, les clés de leur appartement, ce qui permet que mon mari ait, lui, un bureau aussi pour lui. Donc, c'est quand même bien aidant.
Donc, il y a deux informations. Vous vivez déjà en couple avec votre mari pour vous aider et en plus en mode luxe parce que vous avez deux appartements,
voilà,
c'est ça?
Voilà, c'est ça. sans jardin, quand même.
Héloïse, vous êtes, vous, dans quel type de confinement?
Alors, moi, je suis partie de Paris et donc je suis dans une maison en Normandie. Donc, j'ai la chance d'avoir un jardin.
D'accord. Ok, avec un jardin. Et vous vivez avec votre compagnon?
Ouais, votre mari? Moi je vis avec mon mari et là mes deux enfants et je partage la maison avec mon frère et sa famille. Donc on est en cohabitation confinement.
Et enfin Stéphane, vous êtes dans quel type de confinement?
Alors je suis confiné à Paris dans un appartement grand qui est sur deux niveaux, qui fait un peu plus de, qui doit faire 160 mètres carrés, et avec la chance d'être en rez-de-jardin, donc d'avoir un jardin qui est pas très grand mais qui permet de s'aérer. Et je vis dans le cadre d'une famille recomposée, donc avec une compagne et deux de ses enfants, ce qui fait que nous avons quatre enfants.
Ah, ça compense un peu les 160 mètres carrés, tant mieux. Hein. Justement, Stéphane, vous êtes en télétravail ou vous êtes en inactivité dû à cette période? Vous travaillez, vous et votre compagne, votre nouvelle compagne?
Alors, tout à fait. Nous travaillons tous les deux en télétravail toute la journée, avec des journées très actives, très occupées, dont on n'a pas l'impression qu'elles soient toujours productives, mais très occupées.
Et Christelle, vous qui avez deux enfants de 8 et 4 ans, est-ce qu'ils posent des questions sur ce confinement ?
Alors, mon aîné, oui, complètement. D'ailleurs, lui, le premier jour, quand l'école a été fermée, il est rentré en disant « Oh, c'est le corona-vacances ouais. !» Donc, voilà, c'était le maître mot à la fin de l'école. Donc, au début, ça l'amusait beaucoup, jusqu'au moment où, en fait, on s'est fait arrêter par la police dans la rue et où là, ça a pris un autre tournant, en fait, pour lui. Et voilà, et donc là, ça l'a beaucoup plus inquiété. Et le plus petit, il parle un peu du virus, mais bon, on sent que, enfin, lui, il est super content juste d'être avec ses parents et son frère et d'être cool à la maison, quoi.
Mathilde, est-ce qu'il faut vraiment et absolument évoquer la situation avec les enfants au risque de les angoisser davantage, ou est-ce que c'est utile ou indispensable d'en parler, de ce confinement ?
Oui, Guillaume. Donc moi, je pense que c'est vraiment très important et indispensable d'en parler aux enfants, en tout cas d'en avoir parlé au moins une fois pour poser les choses et pour poser les changements. Voilà, qu'ils observent. Voilà, ils voient bien qu'ils vont plus à l'école, qu'ils restent à la maison, que les parents sont avec eux. Après, leur en parler, ça ne veut pas dire forcément leur en parler tout le temps. Et je crois que voilà, pour que les enfants aillent bien, il faut que les parents aussi se gèrent émotionnellement. Donc ça veut dire que le parent doit aussi réguler ses propres angoisses, ses propres inquiétudes. Et pour ça, j'ai plutôt tendance à recommander aux parents que je continue d'accompagner, de couper les informations en continu, de regarder peut-être les informations qu'une fois dans la journée, mais voilà, de se préserver aussi un maximum pour pouvoir accompagner les enfants. Et puis c'est très important de nommer les choses parce que voilà, ils voient bien que c'est pas comme d'habitude. Évidemment, on va nommer les choses en fonction de l'âge de l'enfant, hein, et plus l'enfant sera grand. Alors Stéphane, vous allez peut-être nous dire, vous, comment vos ados perçoivent cette situation, mais les ados, par exemple, ils ont davantage conscience du virus, du danger, de ce qui se passe à l'extérieur. Ils sont eux-mêmes sur les réseaux sociaux, donc ils peuvent d'ailleurs avoir beaucoup d'informations. Et c'est important de ne pas les laisser seuls avec ces informations-là, de reprendre aussi ce qu'ils ont pu voir sur les réseaux sociaux, etc.
Les gestes barrières aussi, ça fait pas peur aux enfants, les gestes barrières ?
Si, alors là aussi, justement, c'est important, voilà, d'être mesuré autour de cette question-là, parce que des parents très insistants qui vont amener tout ce temps ces gestes barrières, de se laver les mains 10, 20, 30 fois par jour, ça peut être assez inquiétant pour des enfants. Donc là aussi, il faut trouver une juste mesure, voilà, de respecter ces gestes en étant aussi, voilà, rassurant pour les enfants et dans quelque chose d'une juste mesure.
Stéphane, vous qui avez des enfants un peu plus âgés, des adolescents et des pré-ados, hein, puisque vous avez donc une famille de recomposée avec des pré-ados, est-ce que ces enfants qui doivent avoir entre 11 et 13 ans, est-ce qu'ils posent des questions ? Est-ce qu'ils sont angoissés par cette situation ?
Alors oui, ils posent des questions, ils suivent les réseaux et les informations. Il y a eu une victime, notamment adolescente, ce qui est un phénomène extrêmement angoissant, puisque ils se sentaient concernés par les gestes, par les fermetures d'école, par les contrôles de police, et puis tout d'un coup, ils sentent qu'ils peuvent être eux également touchés, et donc ils se sentent tout à fait concernés.
Et du coup, ça les angoisse, ça les stresse ?
Ah oui, il y a un phénomène d'angoisse, d'anxiété qui a besoin d'être verbalisé, qui a besoin d'échanger avec eux. Et c'est vrai que, en plus, voilà, de 15 ans à 19 ans, on suit l'actualité. Donc, il faut arriver à limiter le flux d'actualité qui ne tourne que autour du coronavirus et qui amplifie. Et qui amplifie le phénomène d'angoisse ressenti.
Oui, là, Stéphane, justement, vous dites bien là, l'importance de reprendre avec les adolescents, voilà, justement, ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont entendu, voilà, ce décompte aussi de nombre de morts. Là, vous parlez d'un adolescent qui est décédé, voilà, de pouvoir en reparler et du coup nommer les choses avec eux et parler de ce que ça leur fait vivre, de ce qu'ils ressentent, de leurs angoisses. Voilà, le fait de nommer les choses, c'est une manière aussi de mettre à l'extérieur de soi et donc d'apaiser, de diminuer en tout cas en partie le niveau d'angoisse.
Alors, il n'y a pas que les enfants que ça déstabilise, évidemment, il y a les parents. Il faut gérer le travail, il faut gérer la garde des enfants, il faut gérer maintenant aussi l'école des enfants. Ça va faire un stress supplémentaire pour les parents, ça, Mathilde ?
Ah bah bien sûr, voilà, de nombreux parents là ont une charge non pas mentale hein, mais une charge quotidienne qui est vraiment démultipliée, extrêmement importante. Voilà, ils doivent gérer l'école à la maison, les enfants, le travail, la maison, le quotidien. Donc ça fait en effet ça fait énormément de choses à gérer. Il faut pas oublier voilà que cette situation elle est quand même exceptionnelle, qu'elle suscite du stress, de l'inquiétude au jour le jour pour l'avenir. Voilà, on est tous finalement d'une certaine manière à la même enseigne. Voilà, on vit tous ces émotions là qui nous traversent et voilà, on va tous devoir apprendre à faire avec et puis les gérer. Et voilà, c'est en se gérant, voilà, en prenant soin de lui que le parent va aussi prendre soin de ses enfants. Et je crois que c'est vraiment important, voilà, qu'il puisse être à l'écoute de ses émotions. Et puis, voilà, pour compléter ce que je disais tout à l'heure, voilà, de reconnaître aussi que c'est difficile, que c'est stressant, que c'est inquiétant. En nommant ce qu'il vit, le parent aussi accompagne son enfant. Souvent, les parents ont cette idée qu'il faut annuler ces émotions qui sont désagréables, sauf que là, elles sont vécues par tous. Donc, c'est comment tous ensemble, on va les traverser et les dépasser. Voilà. Il ne s'agit pas forcément d'annuler ces émotions-là auprès de ses enfants.
Christelle, vous qui avez deux enfants de 8 et 4 ans, donc pile dans la cible de l'école à la maison et puis du travail aussi à gérer, vous et votre compagnon, comment vous vous organisez aujourd'hui, comment vous le vivez en tout cas ce confinement avec les enfants et puis cette gestion du temps avec l'école à faire en tout cas à la maison?
Alors en fait, moi là pour tout vous dire, je suis vraiment très fatiguée, je suis épuisée. À tel point je me suis dit mais c'est pas possible, j'ai le coronavirus ou quoi, tellement je sens une grande fatigue. Au début on n'avait pas trouvé d'organisation avec mon mari, enfin normal, il nous a fallu je dirais une semaine en fait pour arriver à se caler, à se faire un planning, etc. Là maintenant on fait l'école le matin, donc en fonction quand c'est lui ou quand c'est moi, enfin selon notre voilà qui travaille à ce moment là ou pas. Alors bon, la chance qu'on a c'est que voilà, moi mes enfants ils aiment beaucoup l'école et ça se passe très bien, donc ils sont pas du tout récalcitrants et ça c'est chouette, mais néanmoins c'est très fatigant parce que ça nous demande, enfin ça me demande une grande disponibilité. Voilà, et par ailleurs dans mon métier ça me demande une grande disponibilité psychique parce que je suis psychologue et voilà, et donc je me sens aussi devoir être disponible pour mes patients mais aussi pour mes enfants, et je pense que c'est ça qui fait que je suis très fatiguée, mais voilà, le maître mot de ce soir c'est la fatigue en fait, vraiment une fatigue énorme.
Et à part cette fatigue, il y a des tensions qui apparaissent, du stress qui apparaît dans le cercle familial qui était encore jusque-là un peu préservé?
Alors, les enfants, non, parce que eux, en fait, je crois que vraiment, ils en retirent beaucoup de bénéfices, en fait. Hein. Mon aîné le dit, il dit « Ah ben moi, en fait, j'aime bien parce que du coup, on a moins le stress, on a plus le temps de faire les choses. Le plus petit, il est ravi de nous voir. Les moments où je vais travailler, lui, il est beaucoup plus détendu parce qu'il sait que c'est moi qui va retrouver après. » Et pas une babysitter, par exemple. Donc, il est, vraiment, de ce côté-là, ça se passe très bien. Là où, par contre, moi, ce que je vis plus difficilement, c'est que, de fait, avec mon mari, on se voit moins, puisque comme on alterne, voilà, quand il y en a un qui s'occupe des enfants, l'autre travaille. Donc, ça nous fait, et on travaille quand même beaucoup. Donc, ça nous fait un emploi du temps où on se voit très peu. Et ça, je trouve ça difficile, vraiment, quoi. Voilà, on se manque. On vit sous le même toit, mais on se manque.
En tout cas, là, dans ce que vous dites, Christelle, voilà, mais il y a quelque chose que je retrouve dans beaucoup de parents là que j'accompagne, c'est que les enfants, les jeunes enfants, on va dire, vivent plutôt bien cette situation. Mmh. Ils sont très contents d'être avec leurs parents. Mmh. Enfin, voilà, ils ont plein de temps avec leurs parents. Mmh. Voilà, c'est un peu la vie rêvée des enfants. Pour les ados, par contre, c'est un peu différent et peut-être un peu plus compliqué. Mais les jeunes enfants, ils sont contents de cette situation. Finalement, c'est pour les parents que c'est plus difficile parce que ça mobilise d'autant plus et ça demande plus de disponibilité, de faire des choses, d'organiser des choses avec ses enfants, plus le travail, plus la maison, plus tout le reste. Donc c'est principalement pour les parents de jeunes enfants que c'est difficile, plus que pour les enfants eux-mêmes.
Alors justement, les ados, on va en parler avec Stéphane. Stéphane, vous qui avez justement accueilli des ados qui ne sont pas les vôtres, hein, puisque votre compagne avait deux pré-ados, et puis vous en avez un, vous en
deux.
Avez deux.
Oui.
Alors comment ça se passe à la maison quand on a des pré-ados et des ados en période de confinement?
Alors ça se passe relativement bien. Les enfants sont contents. Il y a trois garçons, une fille. Ils peuvent avoir des moments de jeu, des moments d'activité. Je rejoins le témoignage selon lequel voilà, c'est important qu'il y ait un planning de la journée, un planning d'activité. Moi, je ne m'occupe pas trop de mes ados pendant la journée. Donc la grande difficulté, c'est arriver à être disponible quand ils le demandent à des moments qui sont parfois perturbant parce qu'on est dans le travail et que s'ils sont autonomes, eh bien, ils ont quand même besoin à certains moments qu'on les guide, qu'on les accompagne. Arriver à avoir des vrais moments de jeu et des chouettes moments de partage. C'est désormais fini, mais le début du confinement a été très difficile en termes de volonté de sortir, de volonté de rencontrer des gens, en indiquant toujours « Non, mais t'inquiète pas, je donne rendez-vous à mes amis à un mètre devant la maison. » Bah non, c'est... Voilà, arriver à limiter les sorties des ados et des pré-ados, ça a été quelque chose de difficile.
Ils ont eu du mal à respecter justement ce confinement, ils voulaient sortir.
Voilà, ils l'ont respecté, mais désormais c'est respecté, c'est la règle, mais ça n'a pas été simple.
En tout cas, là, Stéphane, vous dites bien qu'il faut un temps d'adaptation. Et que ce temps de... Voilà, là, on est à la troisième semaine de confinement. Que ce temps d'adaptation, tant pour les enfants que pour les adultes, il faut qu'ils se mettent en place. Et puis que les enfants, et nous aussi les adultes, on a beaucoup de capacités d'adaptation. Donc, c'est important aussi de faire confiance aux enfants et que, bah, petit à petit, ils vont s'adapter aussi à pas pouvoir sortir dehors, ou en tout cas à moins sortir dehors, à pas pouvoir voir leurs amis. Alors, ça veut pas dire que ça va être tout le temps facile, hein. Il va y avoir des moments plus difficiles. C'est un peu ce que vous disiez, Aïda, finalement, que les 15 premiers jours, là, ont été plutôt faciles. Et puis là, cette troisième semaine, peut-être, avec votre fille, est un peu plus dure. Voilà, il y a des hauts et des bas, mais globalement, voilà, on s'habitue tous aussi à cette situation et on a tous, voilà, des capacités d'adaptation.
Et moi, je voudrais revenir sur une chose. Alors, Stéphane a la chance d'avoir d'un groupe d'ados, puisqu'ils sont quatre à la maison, ils peuvent jouer ensemble. Mais qu'est-ce qu'on fait quand on a un ado qui est enfant unique? Et qui, lui, s'ennuie terriblement et qui, lui, ne peut pas solliciter ses parents. Alors, qu'est-ce qu'on fait, Mathilde, avec ça, alors, du coup?
Bah alors, là, voilà, les ados, ils ont besoin d'être en lien avec les autres, donc de pouvoir l'aider à trouver des solutions, même à distance, de pouvoir être en lien avec ses camarades, voilà, qu'ils puissent maintenir un lien à distance, c'est très important. Et puis, ça va être l'occasion, voilà, de se découvrir de nouveaux intérêts, de nouvelles passions, peut-être de partager aussi de nouvelles choses entre enfants et parents. Et puis, que le parent aussi, alors, peut, s'il travaille, évidemment, ça sera pas possible toute la journée, mais voilà, d'essayer de se rendre disponible à certains moments donnés de la journée pour proposer une activité, un partage à son enfant, et puis que le parent puisse faire découvrir aussi ce que lui peut aimer ou ce qui peut l'intéresser à son enfant. Ça peut aller dans les deux sens, s'intéresser à ce qu'aime l'ado et puis amener l'ado aussi sur son propre terrain en tant que parent.
Et vous, Aïda, vous qui êtes maman solo, là on a eu les témoignages de personnes qui vivent à deux, à plusieurs dans l'appartement. Là vous êtes à deux avec votre fille. Qu'est-ce qui est le plus difficile à vivre justement à ce 16e jour de confinement?
Il y a peut-être plein de petites choses en fait qui après, une fois que je me suis un peu énervée, ça va mieux. Mais je sais pas, par exemple, c'est le fait que... Bah là, elle est avec moi, par exemple, alors qu'elle devrait habituellement être au lit et que c'est pas un problème dans la vie de tous les jours. À 8h30, elle est au lit. À 8h35, elle dort. Là, il est 22h. Elle dort pas. Elle a besoin d'être avec moi. Elle est parfois très, 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 très koala, alors qu'elle était très autonome. C'est le moment où... Enfin, voilà, c'est des moments où je peux pas... Je veux la voir dans mes bras, mais parce que je ne sais pas, justement, je peux pas gérer du non en permanence. Et le non, c'est pas que je ne veux pas la voir dans mes bras, c'est que j'essaye de lui faire comprendre qu'elle peut aussi s'amuser toute seule. C'est les tâches rébarbatives du quotidien auxquelles on n'est plus habitué, de faire à manger trois fois par jour. On ne fait plus ça dans nos vies. Enfin, je ne sais pas vous, mais moi, non. Donc, c'est quelque chose de très chronophage. Et puis, je me fais un point d'honneur pour ne pas devenir folle de laisser une maison clean. Parce que sinon, c'est un engrenage qui est assez violent. Je crois que c'est Christelle qui ou Héloïse qui en parlait tout à l'heure. De ne pas pouvoir, en effet, donner la poupette dans les bras de quelqu'un pour la rassurer, elle, mais moi, pour prendre un petit peu de temps. Quand je travaillais, c'était un petit peu délicat parce que je suis archi contre les écrans. Ah bah là, j'ai mis sous le coude ce genre de principe parce que bah, là, typiquement, elle est devant moi. Enfin, elle est devant l'écran. Donc, j'ai baissé au maximum la luminosité de l'écran. Et pendant que je travaillais, bah, j'étais obligée d'être avec l'écran. Elle pleurait, elle demandait les bras parce qu'elle devait se dire « Mais c'est quoi cette machine ?» qui prend le temps de ma mère, alors que d'habitude, cette machine n'existe pas autant, quoi, n'a pas autant de place. Voilà, donc j'ai trouvé un subterfuge et je lui fais voir des films avec un vidéo proche. Comme ça, il y a des barbes à papa contre le mur. Et pas dans un écran d'ordinateur.
Alors, Mathilde, justement, quand on est dans cette période-là, pour les parents, ça veut dire qu'on revoit un peu tous nos principes dans cette phase-là un peu compliquée du confinement ?
Alors, on revoit pas forcément tous ces principes. En tout cas, il y a des choses qui peuvent lâcher. Il faut pas oublier que cette période, elle va avoir une fin, même si aujourd'hui, on sait pas quand ce sera. Ça va se terminer. C'est qu'un temps, c'est qu'une période. Et que, en effet, peut-être, il y a des choses qui vont lâcher. Et c'est pas grave. Et ça veut pas dire qu'après, les choses vont pas reprendre leur ordre habituel, hein. Voilà, là, les enfants aussi, voilà, vous dites bien, Aïda, hein, votre fille, elle n'a pas l'habitude aussi de vous voir et puis de vous voir peut-être moins disponible là quand vous travaillez. Vous êtes là, mais vous n'êtes pas forcément disponible pour elle. Donc, c'est quelque chose qu'elle comprend peut-être pas et qui la déstabilise. Bon, là, maintenant, vous n'allez plus travailler, donc les choses vont évoluer, vont être un peu différentes.
Il y aura d'autres problèmes, mais, à mon avis.
Il y aura certainement, en effet, d'autres questions. Mais voilà, les choses, de lâcher, on ne peut pas être sur tous les fronts, tout le temps. Et ce n'est pas grave, je crois, et que c'est important que les parents ne se culpabilisent pas. Là, vous parliez alors de la question des écrans. Évidemment que dans cette période de confinement, il va y avoir peut-être un peu plus d'écrans pour tous les enfants. Et en soi, ce n'est pas grave. Mais un peu plus d'écran, ça ne veut pas dire de l'écran tout le temps, toute la journée. Ça veut dire de l'écran à des moments, dans un cadre, de poser un cadre et de le tenir et de le respecter. Et puis, regarder un dessin animé ou un film, c'est l'occasion aussi. Voilà, là, vous parliez des barbes à papa, c'est l'occasion de regarder les barbes à papa avec votre fille, d'en parler avec elle, de partager ce moment-là avec elle. Voilà, les écrans, c'est aussi l'occasion de partager des choses avec ses enfants, de comprendre aussi ce qui les intéresse, ce qui les anime pour les ados, d'aller jouer à un jeu vidéo avec eux. Voilà, je ne sais pas, Stéphane, si vous avez pu avoir l'occasion de faire ça là, dans ces derniers jours, de jouer à un jeu vidéo ou de, en famille, choisir un film qu'on va regarder tous ensemble. Et ça peut aussi être des moments de partage.
Si, Mathilde, c'est effectivement ce qui s'est passé. Les adolescents sont des enfants digitaux, donc ils manient bien mieux d'ailleurs les outils que le père que je suis. Et donc c'est une bonne occasion que de partager des moments derrière un écran, ensemble, en intégrant l'outil, en intégrant l'écran comme un outil de communication. Et partager... Des vidéos ou un film ou même des jeux, c'est assez nouveau et quand on prend le temps de le faire, eh bien ça devient un moment convivial et qui n'est pas un moment qui est aspiré par l'extérieur, mais qui est un moment de famille et de regroupement.
Mathilde, là, on parle quand même de cas où tout se passe bien à la maison, les parents s'entendent bien avec les enfants, il n'y a pas de tension particulière, mais si on pense un peu à ceux qui sont confinés avec des enfants qui sont un peu plus difficiles, comment on fait pour tenir ?
Comment on fait pour tenir ? On essaye de trouver... Des petites choses qui permettent de trouver des soupapes, de trouver des petits moments pour soi, de pas trop se mettre la pression, de lâcher et puis essayer le fait finalement de se retrouver en confinement, peut-être qu'il y a beaucoup d'ados qui parlaient plus à leurs parents et qui se retrouvent obligés de leur parler. et que finalement de se retrouver obligé de se parler, bah, ça peut être certes le moment de conflit, mais les conflits ont aussi du bon, et le fait parfois de se parler et de passer par des moments de tension, bah, c'est ce qui permet après, pas forcément que ça résolve tout et tous les problèmes, mais en tout cas d'apaiser les choses. Voilà, moi je crois quand même de trouver le moyen de se parler, de communiquer, même si c'est tendu, même si c'est difficile, puis de pouvoir organiser les choses. Je crois que la question de l'organisation aussi est importante. C'est-à-dire que s'il y a des tensions, plus l'organisation va être carrée sur la répartition des tâches, moins il va y avoir aussi de conflits ou de sujets à conflit ou à dispute. Et puis de pouvoir que chacun puisse préserver des temps pour soi, des espaces pour soi dans la maison, même si c'est petit. Voilà, pour que chacun aussi garde un peu un espace vital pour souffler. Voilà, c'est très important.
Donc garder un espace vital, préserver un espace à soi, maintenir un rythme, c'est ça, un rythme qui sera adapté au vu de la situation, ça c'est très important aussi, garder un rythme, des heures de lever, des heures de coucher.
Oui, oui, oui. Alors Christelle le disait hein, d'ailleurs, depuis que l'organisation a été un peu plus, j'allais dire militaire ou en tout cas organisée, c'est bien ça Christelle. Voilà, les choses finalement, notamment pour les enfants, ont été plus simples. Voilà, je crois que le fait qu'il y ait des repères, c'est très important, autant pour les adultes que pour les enfants. Donc garder des heures de lever ou de coucher. Alors ça peut être un peu plus tard que d'habitude le matin, un peu plus tard que d'habitude le soir. C'est pas très grave, mais c'est important qu'il y ait quand même des choses répétées, identiques, qui marquent le temps de la semaine, qui marquent le temps du week-end. Voilà, c'est important de se lever, on prend son petit déjeuner, on s'habille, on reste pas en pyjama toute la journée. Voilà, des petites choses comme ça. Et rythmer la journée, ça veut pas dire forcément avoir un planning où tous les demi-heures, on va faire une activité différente. Hein. Voilà, faut... cool aussi, hein. Faut pas non plus trop s'en surajouter. Il y a déjà plein de choses à faire. C'est pas la peine non plus d'amener énormément d'activités ou de choses dans l'organisation. Il y a déjà un rythme naturel qui doit être posé.
Et d'ailleurs, je trouve que ce temps, enfin, je me permets juste, hein, mais que ce temps de rien faire, hein, où il y a moins de choses à faire pour les enfants. Je trouve ça aussi super, en fait, pour eux.
Bien sûr, en effet, voilà, l'ennui, je crois que c'est quelque chose qu'on a beaucoup oublié dans notre société. On est tout le temps dans le sur-éveil des enfants dès la naissance, alors que déjà d'être là et d'être au monde, c'est un éveil pour eux. Donc, il n'y a pas besoin d'en rajouter et finalement de leur apprendre à s'ennuyer. L'ennui, c'est aussi dans ces moments-là où les enfants et les ados se reconnectent à quelque chose de leur imagination, de leur créativité. Voilà, ça les oblige aussi à aller chercher des choses en eux. Et ça, c'est plutôt une richesse et quelque chose de très positif. Et puis, les enfants aussi, qu'ils apprennent à s'occuper seuls. Voilà, je crois que ça, c'est aussi quelque chose qui va ensuite les aider à être plus autonomes.
Alors justement, parlons-en de s'occuper, d'occuper les enfants, d'occuper un peu la journée. On va faire un petit tour de table. On va commencer par vous, Christelle, 8 et 4 ans. Comment vous faites pour, et qu'est-ce que vous avez comme idée à nous proposer pour occuper des enfants de 8 et 4 ans dans cette période de confinement ?
Bon, alors, ça va peut-être vous paraître un peu bizarre, mais alors après l'école le matin, et là maintenant, on a remis de faire une balade tous les jours pour prendre un peu l'air, parce que sinon, là, ils avaient des teints vraiment cadavériques, donc voilà. L'après-midi, on a remis la sieste, en fait, même pour le grand. Les enfants, ils ont un temps de sieste, ils lisent chacun dans leur lit s'ils n'ont pas envie de dormir. Voilà, donc il y a vraiment un temps qui est assez long. Hein. Nous, on l'a posé entre 2 et 3 heures. Voilà, il y a aussi plus le temps. Enfin, notre aîné qui faisait du piano, du coup, il a plus le temps de faire du piano, il est super content. On a installé aussi un rituel familial tous les soirs qui est très sympa. Et là, tout le monde en retire un bénéfice qui est de regarder des photos de vacances. On a regardé la vidéo de notre mariage, des choses qu'on n'avait jamais faites en fait avec les enfants sur des choses qui appartenaient à notre couple avant leur naissance. Et ça, ça passe aussi le temps. Et puis, comme disait tout à l'heure Mathilde sur les écrans, c'est vrai que bon, nous, on est complètement contre les écrans, etc. Enfin, contre. En tout cas, on est très attentif à cette question-là. Mais bon, là, les enfants regardent un peu tous les jours, ce qui normalement n'est pas le cas. Donc, je ne sais pas, ils regardent peut-être 3 quarts d'heure, 1 heure par jour. Donc, ça passe aussi le temps. Puis voilà, ils jouent, mais ils font aussi rien, en fait. Et ça, c'est...
je trouve ça assez, assez chouette quoi, de les voir parfois juste allongés et dans le canapé et être là et rien faire. Quoi.
Héloïse, vous, comment vous faites pour occuper votre fils de 3 ans ?
Alors, comment je fais ? Moi, j'essaye aussi de lui... Nous, on a un jardin, on est à la campagne, donc je passe ma vie dans le jardin. On essaye de faire des choses qu'il ne fait pas d'habitude. Donc, on cherche des vers de terre. On fait... j'ai acheté plein de jeux pour faire de la pâte à modeler, du dessin. J'essaye de l'occuper comme ça, moi, parce que les journées sont un petit peu longues. Et donc, comme moi, je ne travaille pas et que mon mari travaille, je dois m'occuper de lui toute la journée, toute seule. Donc, je sais pas. Il regarde aussi, évidemment, des écrans. Je vous rassure, on ne fait pas que de la pâte à modeler. Il est shooté aux écrans le matin au petit-déj, qui me permet de dormir un peu plus. Mais j'essaye de trouver des activités pour l'occuper un peu. Quoi.
Et Stéphane, pour les plus jeunes, peut-être
Alors, le plus jeune, il a 9 ans, et c'est vrai qu'il est pas mal encadré par sa maman, en tout cas le matin, pour le travail, c'est donner des lectures. En tout cas, il est occupé par la lecture et reprendre un peu goût à la lecture. Parce que quand on s'ennuie, et qu'on n'a pas forcément la possibilité d'aller vers un écran, eh bien, on va plus facilement, au bout d'un moment, vers un livre. Avoir des rendez-vous. Nous, on organisait un rendez-vous gym le soir, voilà, à 19h. On regarde tous une émission de gymnastique, à faire de la gymnastique, avec ceux qui participent et ceux qui participent pas. Et voilà, faire un effort en commun, c'est assez plaisant. Tous ne participent pas tous les jours. Et puis, des jeux de société, voilà, des jeux de cartes, par exemple, après le repas, le soir, c'est un moment de convivialité. Et puis, pour les ados et les pré-ados, c'est les faire participer, je dis ça aussi au père que je suis, un peu plus à la vie de la maison, parce que c'est vrai que...
Il était temps. Participe un peu, ces ados, à cette vie de maison.
C'est vrai qu'il y a 3 repas par jour, que la maison nécessite un entretien, qu'il y a des habits à laver, des draps à changer, enfin la vie de la maison, chacun doit y participer, et donc ils doivent petit à petit essayer de se rendre compte et d'être aussi des éléments actifs dans cette vie de la maison. Enfin, c'est beaucoup de vœux, hein, c'est surtout des vœux, ça.
Et juste d'ailleurs, dans ce que vous dites, Stéphane, je voulais juste rajouter une chose. C'est vrai que les activités de la maison, nous, nos enfants, ont grand, grand plaisir, et ça les occupe beaucoup, c'est cuisiner. Du coup, couper les trucs, laver les légumes, c'est des activités qui nous aident et les occupent bien aussi.
Je suis tout à fait d'accord. Enfin, la cuisine, c'est vraiment un très bon vecteur. Et c'est toujours un lieu convivial. Il fait un peu chaud. Il y a des éléments, il y a des aliments qui crépitent. On pense au repas du soir ou à quel menu il voudrait participer. C'est vraiment un chouette moment.
Et Aïda, justement, 2 ans, c'est l'année des terrible tours. On en a parlé en plus dans parentalité. Hein, ça a fait l'objet d'un épisode consacré.
Bah, en fait, elle chante beaucoup, comme vous pouvez l'entendre sans doute.
On l'entend.
Non, mais le truc, c'est qu'évidemment, ça sera sûrement un prix Nobel plus tard. Mais en tout cas, pour le moment, elle n'a que 2 ans. Donc très honnêtement, elle s'ennuie peut-être aussi beaucoup. Enfin, je laisse faire la vie, quoi. C'est pas que je suis fataliste, mais on sort un petit peu, mais elle est assez... elle ne bouge pas beaucoup, figurez-vous, quand on sort. Elle a bien compris qu'il y avait personne dans la rue et que ça n'était pas normal. On a un ballon et à part dans la cour, sinon, là, par exemple, aujourd'hui, elle était vraiment comme si elle avait peur, quoi. On était pourtant au soleil et elle ne supportait pas d'être à plus de 3 cm de moi. Mais bon, c'était aujourd'hui. Hier, elle bouquine, elle regarde. Il y a une voisine qui nous a offert une magnifique dinette en bois à sa taille. Donc, elle joue à ça. Mais elle s'ennuie vite. Mais bon, c'est la vie, quoi. C'est la vie. Et puis, je vous dis, à partir d'aujourd'hui, donc j'ai du temps. Et j'ai prévu de regarder des livres de la jungle, des The Kids de Charlie Chaplin, parce que c'est du muet, donc ça durera 5 minutes, 15 minutes, peu importe. Mais effectivement, pour reprendre ce que disait Mathilde, on pourra échanger ensemble. Et puis, il y a beaucoup d'ennuis pour elle, j'imagine, mais c'est la vie. Cela dit, je fais beaucoup de câlins, et ça, c'est super.
Oui, là, vous remplissez son réservoir.
Ah ouais, ouais, ça, pour le coup, il y a même des moments, elle s'endort dans mes bras pour la sieste, parce que ça, ça fait partie des choses qu'il faudra, bon, donc, entre guillemets, redresser. Mais je kiffe, en fait.
c'est ce qu'il y a bon à prendre dans le confinement. Mathilde, il y a quelque chose dont on ne parle pas dans ce confinement, c'est dans les activités, c'est cette décharge motrice pour les enfants. Qu'est-ce que ça a comme impact qu'un enfant ne puisse pas courir partout, hurler, ne puisse pas se dépenser comme il le fait d'habitude à l'école, à la récréation, ou à la crèche, ou même au collège?
Ben ça, que ça, justement, c'est ce qui peut provoquer les tensions, les énervements, les colères des enfants. Ça suscite de la frustration. Voilà, les enfants et les adultes, on a tous besoin de bouger, d'être en mouvement. Et donc, qu'il y ait des moments de décharge motrice, ça me semble extrêmement important. Vous avez tous dit finalement que dans ces activités, il y a différentes choses. Il y a des activités intellectuelles, des activités manuelles, et puis des activités de partage et pour la vie commune. Hein, je crois que ce que vous disiez sur les tâches ménagère Stéphane, mais les enfants petits aussi, voilà, aiment beaucoup participer à la vie de la maison, leur apprendre à mettre le linge dans la machine, vider le lave-vaisselle. Ils sont souvent très demandeurs aussi de ça. Hein. On n'est pas obligé d'attendre qu'ils soient ados pour les faire participer. Et puis, voilà, qu'il y ait des moments dans la journée de décharge motrice. Alors, moi, je parle souvent de la boum. Hein. Pendant 10 minutes, on met la musique à fond et les enfants et les adultes, on saute, on crie, on chante pendant 10 minutes, et ben ça fait du bien, ça libère les tensions qui sont accumulées et qui parfois sinon vont exploser d'une autre manière. Voilà, je sais que voilà, à Paris ou dans beaucoup de villes, à 20h dans les villes, voilà, les gens applaudissent à leur fenêtre. Voilà, je crois que ce moment-là, c'est un moment de décharge motrice aussi.
Absolument.
Pour tous, ou voilà,
et les enfants adorent. Et
les enfants adorent, ouais, oui. Ça, je confirme.
Alors, non, mais nous, ils attendent ce moment-là, quoi. C'est si on, quand on le rate, ils sont dépités.
Elle a appris à dire bravo.
Les enfants adorent et se mettent à la fenêtre. Et enfin, moi, ils hurlent. Et comme vous dites, Mathilde, c'est vraiment une décharge. Et ils hurlent. D'ailleurs, ils continuent, même quand il n'y a plus personne qui continue. Hein, eux continuent. Donc, voilà. Donc, tout
mais
à fait.
Mais voilà, on n'est pas obligé d'attendre 20 heures. Hein,
ouais,
parfois, de le faire plusieurs fois dans la journée, bah, ça fait du bien. Ça fait du bien à tout le monde. Voilà, Stéphane, vous faites la gym en famille. Mais voilà, il y a plein de manières. On peut faire des parcours moteurs, même si on a un petit appartement. On empile les coussins, les chaises, les oreillers, et puis voilà, on fait des parcours moteurs et ça fait du bien à tout le monde.
Et alors, dans cette phase de confinement, évidemment, on a découvert aussi, pour ceux qui l'ignoraient, le travail formidable des instituteurs et des profs. Hein. On s'aperçoit maintenant, on vit de près ce qu'ils ressentent. C'est l'école à la maison, c'est une nouvelle expérience pour beaucoup. Est-ce qu'il y a certaines règles à respecter, Mathilde, quand on veut faire les choses correctement, l'école à la maison, et après on demandera à nos témoins ce qu'ils font, eux, concrètement aussi, pour suivre au mieux le programme de l'école?
Faut pas trop se mettre la pression. Les parents ne sont pas des professeurs. Voilà. Même si on leur demande ça là, en ce moment, voilà, tous les parents sont pas des grands pédagogues, sont pas des professeurs. Chaque parent fait du mieux qu'il peut, et c'est déjà pas mal, du mieux qu'il peut aussi en fonction du temps qu'il a. Parce, voilà, quand on travaille, en plus, voilà, de faire l'école, bah, c'est pas forcément simple. On n'a pas forcément le temps et la disponibilité. Donc, voilà, ça, déjà, c'est une première chose. Et puis, je crois que cette question-là, elle va aussi varier en fonction de l'âge de l'enfant, de son niveau scolaire. Voilà, peut-être que l'impact n'est pas tout à fait le même là d'une absence, en tout cas il n'y a pas une absence d'école, mais le fait qu'il n'y ait, ait pas l'école à l'école pour les petits, ça a moins d'impact qu'un enfant qui serait en terminale et pour lequel il y a l'enjeu de l'avenir. Voilà, il y a quand même des classes qui sont plus charnières que d'autres et qui vont susciter de l'angoisse ou de la pression pour l'enfant et pour le parent. Et puis il y a des enfants aussi qui sont autonomes dans leurs devoirs, qui fonctionnent bien à l'école, et puis d'autres pour lesquels c'est plus difficile, et où du coup là les parents vont peut-être être plus inquiets et vont peut-être mettre plus de pression. En tout cas, voilà, je crois que de pouvoir être aussi de pouvoir s'adapter aussi à chacune de ces situations. Et puis à nouveau, ça va être qu'un temps. Voilà, l'école va reprendre un jour pour tous les enfants, et donc voilà, les parents font du mieux qu'ils peuvent, et c'est déjà très bien.
Vous intervenez, Stéphane, vous, dans les devoirs des enfants que vous avez à la maison?
Alors oui, j'interviens en tout cas dans les devoirs de mon fils qui est en troisième. J'interviens de plusieurs façons. D'abord en regardant et en suivant la communication avec l'école, qui s'est quand même très vite adaptée, je trouve, pour suivre les enfants à travers des agendas ou autres. Je suis les recommandations. Puis ensuite au quotidien. On fait des petits bilans, le matin un petit planning de l'activité, le soir un petit bilan pour savoir ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait, une forme de petit compte-rendu. Et puis ponctuellement dans la journée, je suis beaucoup sollicité pour aider telle traduction en anglais ou aider ou accompagner sur un exercice de mathématiques, mais c'est très ponctuel.
Christelle aussi, pareil, vous intervenez beaucoup dans les devoirs. Enfin, ils ont beaucoup de choses à faire, vos enfants de 8 et 4 ans.
Oui. En effet, il y a beaucoup de choses à faire. La maîtresse, en fait, en plus de mon aîné, elle donne les devoirs que deux fois dans la semaine. Donc, elle donne beaucoup de choses. Donc, après, il faut organiser sur les 3 jours et 2 jours. Comme je disais au début, c'est vrai que ce qui est chouette, c'est que mon aîné, il est quand même assez autonome. Donc, on lui dit, ce matin, voilà ce que tu vas faire. Et en général, il le fait. Il peut être, je sais pas, pendant 35 minutes, il peut être autonome. Mais il faut après qu'on vienne. Il a quand même des questions. Il peut pas être autonome pendant 2 heures, quoi. Ça, c'est pas possible. Il faut qu'on corrige. Voilà. Et le petit qui a 4 ans, là, pour le coup, il faut être absolument tout le temps avec lui. Mais bon, moi, je me suis un peu aussi... je me mets moins la pression, quoi, en me disant... La maîtresse est très impliquée pour le petit, ce qui est génial. Hein, ça montre son investissement qu'on connaissait déjà bien. Donc, elle donne plein de trucs très chouettes à faire. Mais très sincèrement, là, on n'a pas le temps de tout faire. Et je me dis, tant pis, quoi. Enfin, c'est pas un drame. On fait ce qu'on peut. On lui envoie ce qu'on peut parce qu'elle demande des photos, parce qu'elle veut faire après un petit livret pour chacun, etc. Bon, donc, on s'est un peu relâché, quoi.
En tout cas, là, Christelle, moi, ce que j'entends, c'est que vous dites, voilà, que c'est évidemment, hein, c'est super, et c'est super que les professeurs se soient très vite adaptés pour mettre plein de choses en place et rester en lien avec leurs élèves, mais que ça met aussi beaucoup la pression aux parents. Et moi, j'ai entendu, là, ces derniers jours, beaucoup de parents qui attendent les vacances de samedi avec impatience pour pouvoir aussi un peu souffler. Et que c'est important, à nouveau, les parents, ils font comme ils peuvent et ils font du mieux qu'ils peuvent, et c'est déjà beaucoup, hein.
Oui, Mathilde, moi, j'ai découvert au bout de la troisième semaine de confinement le vrai plaisir du week-end en termes scolaires. C'est-à-dire que ce que je ne vivais pas comme un soulagement arrive maintenant par deux journées de véritable repos en termes de pression scolaire. Voilà.
Ouais. Et Mathilde, est-ce qu'il y a des organismes qui aident et qui peuvent aider les parents qui sont plus en difficulté pour aider leurs enfants, qui sont au collège peut-être
Alors, vous voulez dire au niveau scolaire
Je crois que les
professeurs se sont extrêmement mis aussi à disposition des enfants, des parents. Je crois qu'ils restent tous très disponibles. Alors, chacun avec son mode de communication. Voilà, je sais qu'il y a des professeurs qui ont appelé tous les parents, d'autres qui ont envoyer des mails. Il ne faut pas que les parents hésitent à contacter les professeurs s'ils ont des questions, s'ils rencontrent des difficultés, pour aussi être accompagnés pour accompagner leurs enfants.
Et alors, juste Guillaume, parce que du coup, enfin moi, par rapport à votre question, que je trouve qui est intéressante, j'ai une amie qui m'a envoyé un contact en me disant si jamais t'as besoin, et du coup, je viens de me remettre dessus. C'est un truc qui s'appelle Conseil bénévole en orthopédagogie. Et voilà, donc pour les parents qui auraient besoin de conseils dans l'organisation de l'école à la maison, c'est des bénévoles. Donc je me suis dit, c'est bien que ça existe pour effectivement... comme vous posiez la question, du coup, je vous transmets ce que cette amie m'a transmis.
en tout cas, là, en ce moment, sur Internet, comme pour les activités pour les enfants en fonction de leur âge, il y a aussi plein de choses autour de l'école, d'aide, de comment organiser les devoirs et tout ça. Il y a plein de choses qui circulent. Il y a des blogs, il y a des professeurs, des instituteurs et institutrices qui ont des sites Internet et qui donnent énormément d'informations... Il faut aller fouiller un petit peu, mais on trouve plein de choses.
Héloïse ?
Oui.
Héloïse, j'ai une petite pensée pour vous. Vous étiez venue pour témoigner de la difficile tranche horaire des 18h-20h. Et là, du coup, dans ce confinement, il n'y a plus d'horaire. Il n'y a plus 18h, wow, il n'y a plus cet horaire 18h-20h. Est-ce que la journée est devenue vraiment tellement difficile? Est-ce que ça devient invivable pour vous?
C'est atroce. la journée, non, mais oui, la journée est un peu longue, quoi. C'est-à-dire qu'effectivement, avant, je me plaignais des 18h-20h. Maintenant, ça commence à 8h du mat et ça se termine à 8h du soir. Donc, c'est vrai que le 18-20h devient un peu plus long, quoi. S'étend dangereusement chaque jour.
Est-ce que Héloïse, vous arrivez quand même à trouver du temps pour vous?
Bah, pas des masses. En fait, comme j'ai un bébé qui a 3 mois, le temps pour moi, c'est pas évident. Et avec un garçon de 3 ans, les deux, non, j'ai pas énormément de temps pour moi en ce moment. Mais bon, ça reviendra, j'imagine. Hein. Mais c'est vrai qu'il faut. Mais j'aimais bien, Aïda, votre philosophie du jour le jour et tout. Je pense que c'est effectivement un truc assez. Il faut.
Ouais. Ah non, mais sinon, je pense que c'est. On devient fou si on se dit qu'il faut encore tenir jusqu'au 30 avril.
Il faut prendre jour après jour. Je pense que c'est ça un peu la clé du truc.
Et Mathilde, vous avez des conseils justement aux parents pour qu'ils prennent un peu de temps pour eux? Comment on peut prendre du temps pour soi en période de confinement, quoi? Nous, on est preneurs.
Alors là aussi, hein, je crois que tout va être une question d'organisation, de possibilités. Là, je pense à vous, Aïda, voilà, qui êtes en plus seule avec votre fille.
Ce qui est vraiment très, très dommage avec ce coronavirus, c'est que je ne suis pas seule dans l'immeuble, mais je ne peux pas filer ma fille à ma voisine infirmière, parce que, au secours, quoi. Je ne peux pas filer ma fille à ma voisine qui d'habitude s'en occupe un petit peu parce qu'on ne peut pas se toucher. Elle est là la réalité parce que je ne suis pas seule.
Oui,
sinon.
Là ce que vous dites, c'est la difficulté du relais. Et ça, c'est une vraie question, une vraie problématique. Mais voilà, je crois que c'est quand même important de pouvoir s'aménager quand même des petits moments. Alors le temps de la sieste, le soir, une fois que les enfants sont couchés, voilà, de pouvoir à ce moment-là, même si c'est que 15 minutes, faire un truc qu'on aime vraiment à ce moment-là et qui nous fait du bien.
Manger un cône à la vanille.
Par exemple.
Chez nous, on prend l'apéritif à 20h30 sur le balcon.
Oh oui. Ouais. Ah oui, ça c'est bien, c'est le bon moment, ça.
Mathilde, pour conclure, est-ce que vous aviez un mot justement pour conclure avec nos invités?
Oui, ça me semble important, voilà, de rappeler que cette situation, elle est vraiment inédite et que chacun fait au mieux, hein, qu'on est tous, enfants et parents, obligés de mobiliser nos capacités d'adaptation, d'être plus souples, voilà, de lâcher du lest. Voilà, à nouveau, ça n'est que pour un temps. Et puis, voilà, j'aimerais quand même donner quelques informations pour les parents qui peuvent se sentir au bord de la crise de nerfs, sur le point de craquer. C'est important de pas rester seul, de pas hésiter à passer le relais. Hein. Il vaut mieux passer le relais et avoir un contact avec une personne plutôt que de craquer avec son enfant. Donc, de pas hésiter à solliciter de l'aide. Il y a de nombreuses associations qui proposent du soutien aux parents qui peuvent se sentir en difficulté durant cette période du confinement. Il y a des écoutes téléphoniques, des entretiens avec des psychologues gratuitement à distance. Dans cette période, il y a beaucoup d'associations qui ont mis plein de choses en place. Par exemple, il y a l'École des parents qui a lancé un mail qui s'appelle le mail, c'est jecraque@lecoledesparents.com où on peut envoyer un mail et on aura une réponse. Derrière, il y a des psychologues, il y a des éducateurs, il y a des professeurs qui répondent de manière individuelle à chaque situation. Il y a les pâtes au beurre, Allo Parents Bébés, qui sont des lignes d'écoute. Les pâtes au beurre, c'est une association d'accompagnement autour de la parentalité. Il y a des plages horaires d'écoute tous les jours pour les parents. L'association Maman Blues pour les mamans avec des jeunes bébés. Il y a aussi des choses, Grandir Ensemble qui a lancé une plateforme d'aide d'urgence qui s'appelle Tous Mobilisés pour les parents d'enfants handicapés, qui eux proposent aussi de l'aide pour ces parents pour aussi faire les courses, trouver des relais, des gardes d'enfants. Voilà, il y a vraiment plein de choses qui sont organisées. Donc, surtout, si ça ne va pas, si vous êtes au bord de craquer, restez pas seul et demandez de l'aide.
Eh bien, écoutez, merci à tous. Merci Mathilde. Merci à tous d'avoir bien voulu nous apporter votre témoignage dans ce format un peu particulier, vous l'avez entendu. On retrouvera Aïda dans le prochain épisode de Parentalité. On vous avait invité Aïda et dans notre studio, il était question d'avoir un enfant seul en ayant recours à un don de gamètes. Ça sera l'objet de notre prochain numéro. Merci Mathilde pour toutes vos précieuses informations. J'espère qu'on pourra se retrouver, comme disent les jeunes, in real life.
J'espère aussi.
Merci à tous et surtout prenez soin de vous.
Merci infiniment.
Merci à bientôt. Merci.
Au revoir, à bientôt.
Au revoir.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.